bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Ah, bientôt tu vas nous le chanter. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Au sommaire de cette édition, très simple, des coups de cœur pour des nouvelles parutions, des coups de cœur pour des rééditions. Et Jean-Marc Laherrère nous rejoindra en deuxième partie d'émission pour son coup de cœur à lui. Comme à son habitude, c'est assez souvent qu'il nous emmène en Amérique du Sud et on va encore se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Donc Jacques, un premier coup de cœur de quelqu'un dont tu nous parles souvent.
Oui, on en a souvent parlé ici. C'est un roman de Thierry Boursy qui s'appelle Le crime de l'Albatros, comme l'oiseau.
L'Albatros, oui.
Voilà, et qui est paru au Nouveau Monde Édition. Et c'est donc là, en fait, le sixième volume des aventures de Célestin Louise, qui est flic et soldat. En fait, là, il est plus soldat, d'ailleurs, parce que le roman se passe en 1919, et donc, il est démobilisé. Il a repris son boulot de flic. Il a, cette fois-ci, intégré officiellement les fameuses brigades mobiles.
Les brigades du Tigre ?
Voilà, les brigades du Tigre. Les brigades mobiles qui n'ont strictement rien à voir avec SFR, Orange et Bouygues, bien évidemment.
Ça, tu l'avais préparé, celle-là ?
Non, pas du tout, elle vient de me venir comme ça. Et en fait, il y avait déjà plus ou moins travaillé, mais officieusement pendant ses précédentes enquêtes. Donc, je vais juste rappeler, parce que peut-être certains d'entre vous n'ont pas entendu parler de Thierry Boursy ni de son Célestin Louise. Donc, en fait, il y a déjà 5 romans qui sont parus avant celui-ci. En gros, un roman par année de guerre, de 14 à 18, dans lequel Célestin, bien qu'il soit un simple poilu du 134e régiment d'infanterie, est amené à enquêter, car en fait, même pendant la guerre, le crime continue.
Ah, je voulais dire le crime ne paie pas, mais non, il continue.
Donc dans cet épisode, il va chercher l'assassin d'un fameux producteur de cinéma, Alexandre Mekhinov, qui est retrouvé mort dans le décor des studios de l'Albatros, d'où le titre du roman « Les crimes de l'Albatros ». Juste après le dernier shooting de son film. Et en fait, déjà à l'époque, le cinéma commence à être une industrie en pleine expansion, et il faut dire qu'après la guerre, les gens ont bien besoin de se changer les idées. Mais pour l'inspecteur Louise, l'argent ne semble pas être forcément le motif. Le défunt était un grand amateur de jeunes femmes, et dans le cinéma, il y en a plein, à l'époque et déjà et encore maintenant, et sa réussite exceptionnelle peut aussi rendre certains jaloux et expliquer sa mort. Et en fait, c'est dans le passé qu'il va falloir chercher, et au grand dam de Célestin Louise, il va devoir replonger dans les années de guerre. Alors, on pensait que maintenant que Célestin Louise n'était plus justement à la guerre, qu'il était redevenu civil, qu'il était loin des tranchées, il allait redevenir un flic joyeux, au moins plein d'entrain. Eh ben non, il y a quelque chose en fait qui est brisé en lui par ses années de guerre probablement, et même la présence à ses côtés, au travail comme à la maison ou dans la chambre, de la très belle Jeanne qui est sa collègue de travail, ça n'arrive pas à le dérider ni même à le motiver. Il enquête toujours bien sûr très consciencieusement, mais sans véritable motivation. Et du coup, cette aventure se trouve être la plus sombre de toutes, là où la guerre obligeait l'auteur, ou Célestin Louise, et où tous les protagonistes, en fait, à avoir quelques humour et quelques raisons d'espérer, il semblerait que le fait qu'il n'y ait plus cette guerre, ça les a tous un peu...
Je ne pense pas que c'est le fait qu'il n'y ait plus la guerre, je pense que c'est surtout le fait qu'ils aient subi cette guerre,
voilà,
qui les a détruits. Ça me rappelle le flic qui est le héros du roman de Benoît Sévrac, Rendez-vous au 10 avril, et qui se retrouve démobilisé et à Toulouse et qui pète un câble complet.
Voilà, il y a une petite citation, un moment de Célestin. « Moi, je pensais qu'après la guerre, les choses seraient simples et que chacun rentrerait chez soi, reprendrait sa vie et que l'on serait tranquille ou presque. Et puis je me rends compte que c'est le contraire. La guerre, c'est simple, on a juste à tuer ceux d'en face. C'est la paix, en fait, qui est plus compliquée. »
Bon, ça, je pense ça que résume. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon, c'est son état d'esprit dans ce roman. Alors, heureusement, pour ne pas trop plomber l'ambiance, en fait, de son roman, et en même temps pour tirer sa révérence avec humour et élégance, Thierry Boursy fait revenir la plupart des personnages qui sont les personnages secondaires qui sont intervenus dans chacun des cinq romans précédents. Le caporal américain, justement, de l'enquête d'avant, le gendarme scalpé, les divers troufions de son bataillon, Doussac, qui était le lieutenant plutôt sympa, Flachon, le cuisinier amateur, et surtout Germain. Germain, lui, c'était le petit truand qui s'avère avoir participé à toutes les enquêtes de Célestin Louise, qui l'a aidé, en fait, dans toutes ces enquêtes, et qui va l'aider aussi dans celle-là. Et puis, il y a aussi les femmes, car même pendant la guerre, l'amour continue. Alors il y a d'abord sa sœur Gabrielle, qui a été veuve dès les premiers jours de la guerre, Joséphine, l'anarchiste, Eliane, qui était la rescapée des premières heures. Bon, ben, tous ces personnages vont donner comme une petite fête, on s'en va tous ensemble. Et Célestin Louise, eh ben, je crois que la dernière fois on avait dit qu'il y aurait peut-être un autre épisode, mais ce coup-ci je pense qu'on
c'est
peut
fini.
Dire que c'est fini, il n'y en aura pas. Ceci dit, vous pouvez toujours lire celui-là, donc Le crime de l'Albatros.
De l'albatros,
décidément.
Tu sais, flap, ouais, ces ailes de géant qui l'empêchent de marcher.
Moi, il m'empêche de parler. Voilà,
ça doit être ça.
Et puis aussi, vous pouvez donc lire les cinq premières aventures des cinq années de guerre qui sont toutes rééditées dans la collection Folio Policier.
Voilà, vous avez tous les titres sur Internet sans aucun problème. Un petit peu de musique, peut-être ?
Un petit peu de musique, donc, pour rendre hommage, enfin, pour penser, disons, à Levon Helm, qui était le batteur du groupe Le Band, batteur mandoliniste, chanteur, qui nous a quittés il y a quelques temps.
C'est un parti politique, mandoliniste, non ?
Oui, c'est ça. Et donc, il va nous chanter l'histoire des frères James.
The full moon touched the cold steel lines. The rail bed was frozen with ice. In the distance, an engine was keeping good time. The steam whistle moaned just twice. Down in the cut, past the old trestle bridge, 12 fine horses stood. Masked men shivered in the cold on the ridge, not far from the Glendale woods. The brass lamp shone from the swaying train when the driver saw the red light. Her iron brakes sparked like silver rain, and the meadows screamed.
soul. Some say his spirit survived. But we all know he was nothing but a Missouri farm boy.
Train robbery, et vous saurez pas la fin de l'histoire des frères James. Car Corinne va nous parler de...
Eh bien, moi, je vais vous parler de deux rééditions. Deux rééditions qui ont pour point commun leur éditeur, puisque tous les deux sont chez Seuil. Mais attention, l'un réédité dans la collection Point Seuil et l'autre dans la beaucoup plus récente collection Point 2. C'est tout petit livre de poche, mais petit par la grandeur, mais grand par la qualité, bien évidemment, et qui s'ouvre à l'envers d'un livre classique, un peu comme une protection de iPad, de tablette.
De l'eau vers du haut vers le bas, en fait.
Du haut vers le bas, oui.
Mais non, si du bas vers le haut, pardon.
Oui, mais si tu tournes le livre, t'es fichu.
Oui,
donc,
mais tu peux pas lire dans ce cas-là.
Effectivement, voilà. Et dans l'écriture, et aussi du haut vers le bas, on peut penser que c'est pas facile à lire, c'est pas vrai du tout. Donc, le premier roman, c'est le deuxième traduit de Knut Fallbakken, qui est un auteur norvégien. Le titre, c'est Frontières mouvantes. Donc, comme je le disais, paru au Point Seuil. La traduction est d'Hélène Hervieux. Cet auteur norvégien, on l'avait découvert il y a 2-3 ans, je crois, avec un roman qui s'appelait L'Athlète, qui mettait en scène le commissaire Wallmann, aux prises avec, allez, soyons gentils, une info mystique et de lourds secrets datant de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le nord de l'Europe, il y a eu beaucoup de lourds secrets entre 42 et 45. Le ton nous avait intéressé alors par, en gros, l'humour grinçant et la description d'une petite ville de province norvégienne, alors que d'autres romans sont plus situés dans les grandes métropoles et la capitale. On avait loupé le deuxième, donc celui-là, Frontières mouvantes, qui sort donc en réédition. Et vient de sortir en même temps le troisième, Gel nocturne, en grand format, chez Seuil aussi. Comme on n'est pas en avance sur nos lectures en ce moment, je vais donc vous parler de la réédition. Le grand intérêt de ce roman, pardon, c'est le face-à-face, je ne parle pas de l'enquête, mais le face-à-face des deux hommes mûrs, un peu vieillissants, bientôt, on va dire bientôt vieillissants, l'un veuf, c'est le commissaire Wallmann, donc on le retrouve, hein, c'est un personnage récurrent, et puis un autre, qui apparaît là et qui disparaîtra... On verra comment à la fin de l'histoire. Arne Vatne, qui est divorcé. Le deuxième, Arne Vatne donc, pense combler cette solitude en monnayant des nuits d'amour avec la jolie Vlasta, tandis que le premier, le commissaire donc, vit un nouvel amour en la personne de Anita, qui est flic comme lui. Au milieu de ces deux hommes, la fille de Arne, qui vit, elle, son premier amour. Malheureusement pour elle, son mec est un mac, et le père et le fils auront bien du mal, et le flic, pardon, pas le père et le fils, le père et le flic auront bien du mal à la sortir des griffes de Alban, donc ce fameux Mac, impliqué dans de nombreux trafics.
C'est sûr qu'il doit plus y avoir trop de place pour le Saint-Esprit.
Dans ouais, non, là c'est sûr. Voilà, ces nombreux trafics dont justement va s'occuper le commissaire Wallmann, bien loin de sa ville, à Mar, c'était là que se passait la première enquête. Et là, il est à la frontière suédo-norvégienne, à moins qu'on dise norvégeo-suédois, je sais pas.
Ça dépend de quel côté tu te trouves au départ, en fait.
Oui, c'est ça. C'est ça, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc, de nombreuses histoires s'en mêlent, comme vous avez compris, s'enroulent autour de cette frontière, donc principalement un trafic de drogue. De près ou de loin, tous les protagonistes de cette histoire vont y être mêlés, à commencer par le flic suédois Timonen, j'en avais pas encore parlé de celui-là, avec lequel doit collaborer Wallmann. Mais décidément, quand vous lirez le livre, vous verrez que les méthodes de Timonen ne plaisent guère à Wallmann, à nous non plus d'ailleurs. Comme je l'ai dit, on retiendra de ce roman les chassés croisés entre Wallmann le flic et Arne Vatne, coupable, victime, vous le verrez. Et puis il y a cette description du film Fargo, vous savez, le fameux film des frères Coen, que regardent en même temps, en des lieux et circonstances différentes, les deux personnages. Et ce film va revenir en filigrane tout le long du récit, en partie d'ailleurs grâce au paysage de neige, peu différent, aussi bien dans le film qu'à cette fameuse frontière entre Suède et Norvège. Deuxième intérêt du livre, l'histoire d'Arne. On est toujours étonné de voir une jeune femme, je dirais éduquée, hein, elle est étudiante, en train de se faire tabasser par un mâle dominant et courber les chines encore et encore, mentir pour le protéger. C'est marrant parce que c'est étonnamment en écho avec le roman de Gradia Verrazzani dont je vous avais parlé il y a, je pense, un mois, qui s'appelle « À tous et à personne », où là, une jeune femme avait été violée et n'osait porter plainte. Décidément, de l'Italie à la Norvège, du nord au sud, les connards ont encore bien de l'avenir. Mais heureusement, les romans noirs sont là pour nous le rappeler. Deuxième réédition, dans la collection dont je vous parlais, point 2, au seuil donc toujours, les enquêtes du croque-mort. C'est les deux premières, ce sont des rééditions. L'auteur en est Tim Coquet et c'est traduit par Claire Breton. Ces deux aventures étaient parues chez Alvic en 2004. Elles ont été concoctées et écrites par Tim Coquet en 2001. C'est marrant parce qu'elles ont à la fois un style et un ton très actuel, mais des tournures un petit peu surannées, des descriptions qui font un peu penser à l'Amérique des années 50-60, Amérique profonde, alors qu'on est à Baltimore, année 2000. Or donc, dans ces deux aventures, Hitchcock Sewell, appréciez le prénom, Hitchcock, il est croque-mort, il s'occupe avec sa tante d'une entreprise de pompes funèbres. Ce qui, avouez-le, est quand même assez pratique pour se retrouver confronté avec des morts. Morts qui, de temps en temps, sont plus ou moins naturelles. Hitch, bon, j'ai passé deux aventures avec lui, je peux l'appeler Hitch, hein. On peut être un peu familière. Donc Hitch est affublé d'une ex, Julia, plutôt sexy, plutôt embarrassante, et d'un chien, beaucoup moins sexy et toujours aussi envahissant. Son créateur, Tim Coquet, adore le mettre dans l'embarras, le plonger malgré lui dans un ou plusieurs meurtres. Mais Hitch, comme Tim Coquet d'ailleurs, est doté d'un sens de l'humour et de la dérision qui ne le quitte jamais, même en situation de danger. Loin des romans noirs dont je me délecte habituellement, ces aventures, car il s'agit plus d'aventures que d'enquêtes, sont des polars drôlatiques et divertissants, rythmés et enlevés, tout ce qu'il faut pour se détendre et s'aérer la tête, ce qui, avouez-le, est quand même bien appréciable pendant par les temps qui courent. Les titres des deux romans donc regroupés dans ce livre, et là c'est quand même un exploit parce qu'il y a quand même 1260 pages que l'on peut glisser dans la poche du jean, ou encore même dans la poche de la chemise, donc c'est quand même un avantage du livre. Donc, comme je disais, les deux titres...
C'est du papier bible, je vous rassure.
C'est du papier bible. Donc, pour le croque-mort, c'est bien. Le croque-mort à la vie dure, première aventure, et le croque-mort préfère la bière. AA, jeu de mots. D'ailleurs, c'est pas du tout le même jeu de mots en anglais. Un petit extrait, juste une phrase qui m'a fait sourire. Elle portait un sweat bleu marine trop grand pour elle et une jupe plissée blanche courte, 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 d'où émergeait une paire de jambes assorties qui allaient s'enraciner quelques kilomètres plus bas dans des baskets plus blanches. Avouez que ça a quand même plus de gueule que les éternelles longues jambes fuselées. Voilà, il y en a encore plein d'autres au long de ces 1260 pages. À tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.